In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 143e épisode de Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Le hasard fait parfois étrangement les choses. Quand j'ai programmé cette émission, j'étais à mille lieues d'imaginer qu'elle serait percutée par un mot, submersion. En effet, tous les protagonistes de cette émission sont d'origine étrangère. Mes invités d'abord, l'un d'origine marocaine, l'autre d'origine congolaise, et puis la playlist, avec une chanteuse américaine et un musicien irlandais. Alors, pour reprendre certains termes prononcés tout récemment, cette émission est-elle dans la bonne proportion ? Euphémisme que l'on peut traduire par « n'est-ce pas trop ?» Ces propos tenus dans le lieu de la représentation nationale sont troublants. Alors je vais essayer de faire mentir les idées reçues, de repousser les pensées vénéneuses, de mettre à la poubelle les circonlocutions bien pensantes. Pour cela, on va commencer par retirer la strate de l'étranger attaché à nos invités, qui leur colle à la peau comme le scotch du capitaine Haddock, pour écouter tout simplement les hommes qu'ils sont. Aujourd'hui, j'ai deux invités dans le studio, en fait. Il y en a un qui est arrivé, l'autre qui est sur la route et qui me fait beaucoup trembler parce que il va arriver en retard. Je croise donc les doigts pour qu'il arrive. Donc le premier arrivé, c'est Georges Mboussi. Bonjour Georges Mboussi.
Bonjour.
Et Mohamed Fakiri nous rejoindra un peu plus tard, je croise les doigts. Georges Mboussi, vous avez écrit un livre assez étonnant, je le dis. Nous en avons parlé un peu hors micro, qui s'appelle Lemba Kalak. Mais Georges Mboussi, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Oui, donc Georges Mboussi, je suis du Congo-Brazzaville. Je suis né à Dolisi, dans la forêt du Mayombe. Donc, c'est pour ça que l'influence de la forêt. Et je vis en France maintenant presque une trentaine d'années et je vis à la Daguenière, au bord de la Loire.
Voilà une présentation extrêmement concise. Pourtant, il me semble que dans votre présentation, il manque quelques petites choses. D'abord, vous n'avez pas dit que vous étiez élu municipal à Loire-Authion et que vous êtes maire délégué de la Daguenière. Non ?
Si, oui, oh. Bien sûr que j'ai fait partie de la liste de Jean-Charles Pronot, donc c'est pour cela... Que je salue, Jean-Charles Pronot, que je salue bien. Et c'est mon premier mandat donc à la Daguenière où je suis adjoint à la maire déléguée, Daniel Lepage.
Alors, si je dis ça, peut-être un peu en plaisantant, mais pas que en plaisantant, c'est qu'effectivement, vous avez dit que vous étiez originaire du Congo Kinshasa. Alors, avec le Congo, moi, j'ai du mal. Je ne vous cache pas que j'ai du mal.
Moi, c'est du Congo Brazzaville. Oui.
Du Congo Brazzaville, oui. Ça y est, j'ai commencé à faire l'erreur. Oui. Ça commence bien. Donc, le Congo Brazzaville, c'est la République démocratique du Congo.
Le Congo Brazzaville, en fait, c'est la République du Congo.
Du Congo.
Et le Congo Kinshasa, c'est la République démocratique.
Voilà.
Mais vous savez, dans l'histoire, tous ces pays viennent du Royaume Congo. Et le Royaume Congo, justement, avec l'histoire, la colonisation, a donné trois républiques. Même quatre d'ailleurs, il y a donc la République colonisée par les Belges, qui est la République démocratique du Congo, la République colonisée par les Portugais, qui est effectivement l'Angola, et la République colonisée par les Français, qui est le Congo-Brazzaville.
Voilà, un petit cours de géographie. Et donc, si je dis ça, c'est que, ben voilà, il y a un pont, il y a un engagement citoyen en France. Mmh. On peut être né ailleurs et puis s'engager de manière extrêmement citoyenne en France. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, vous n'avez pas dit que vous étiez quand même un homme de théâtre.
Oui, j'ai fait du théâtre.
Oui.
Effectivement, je suis sorti en tant qu'élève étranger dans le cours au Conservatoire supérieur d'art dramatique à Paris, dans le cours de Pierre Vial. Mmh. Et puis, je suis allé faire du théâtre. Quand on sort du conservatoire, on est engagé. J'étais sur Avignon avec Gérard Gélas et j'étais sur Lille avec Daniel Mesguiche. Et j'ai même été ici, en Pays de la Loire, avec Jacques Perché.
En quelques mots, là, vous nous avez fait un parcours sur le théâtre français, Daniel Mesguiche, quand même. On vous voit, on vous a vu jouer En attendant Godot.
Oui,
quand
oui,
même.
Avec Alain Timard au Théâtre des Halles.
Oui. Oui,
en Avignon. Mais vous savez, en fait, ce monde de Beckett.
Oui.
Ce mélange avec l'absurde qu'on a au Congo, hein. Mmh. C'est un monde magique et imaginaire avec des mots poignants et la force de la langue, quoi. Mmh.
Alors j'ai dit en introduisant cette émission que je voulais retirer un peu le scotch du capitaine Haddock qui vous collait, parce que là vous venez de nous montrer que effectivement vous êtes peut-être étranger, mais vous êtes un homme qui est venu en France, qui s'est installé, qui s'est engagé citoyennement, qui a fait du théâtre, qui a été comédien, formateur, qui a mis en scène. Enfin bref, votre carte de visite commence à devenir finalement bien plus compliquée que celle que vous avez présentée au début.
Vous savez, je crois beaucoup à... c'est Amadou Ampateba qui disait que la philosophie du caméléon, c'est prendre la couleur du lieu où on arrive.
Oui, mais vous aurez du mal, je suis désolé. Vous aurez du mal, parce que ça ne marche pas avec vous. Parce que votre couleur de peau, elle n'a pas d'état. Hein.
C'est l'intérieur qui est important.
Oui, mais justement, on est là pour voir l'intérieur. On est là pour voir l'intérieur. Et donc, vous avez écrit un roman, Lemba Kalak. Alors, en fait, on devrait même dire, vous allez me dire si je me trompe, Lemba Kalash.
Kalash, oui, oui, ouais. Kalash, oui, c'est ça.
Parce que d'un côté, il y a Lemba, et de l'autre, il y a Kalash, et c'est la Kalachnikov. Hein.
C'est la Kalachnikov.
C'est la Kalachnikov. Donc, vous avez écrit ce roman, une fiction. Elle est née quand dans votre tête, cette fiction?
Moi, dans ma tête, elle est née quand ma mère, après la guerre au Congo, je l'avais rencontrée en 2002, où la guerre avait eu en 1998, donc à la sortie de la guerre, elle me raconte sa vie, sa fuite de la guerre, comment elle avait fui avec la famille, et ça m'a tellement ému. Je suis revenu en France et je voulais écrire là-dessus. Mais je ne pouvais pas me détacher du personnage de la mère. Ce n'est pas évident, j'étais tellement lié. Et je suis parti dans une fiction et en inventant des personnages imaginaires. Mmh. Mais le fond reste la guerre.
Ah, le fond reste diablement la guerre.
La guerre.
Je dirais même plus que le fond, c'est le dessus aussi qui reste la guerre. Hein. Au regard de votre parcours, on a plaisanté, on a fait de l'humour sur votre présentation, mais au regard de votre parcours, vous n'avez pas eu plutôt la tentation d'écrire votre biographie?
Oui, oui. Mais c'est l'écriture, c'est difficile, on est lié à soi aussi. C'est difficile de se détacher de ce soi, de ce moi finalement. Mm-hmm. Mais une biographie, même mes enfants, d'ailleurs, ma fille m'a dit, oh papa, un livre comme ça, je crois que je le lirai plus tard. Et bien, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai posé la question, mais une biographie de toi, pourquoi tu n'écrirais pas? Ah là là, c'est pas évident, mais il faut que je prenne du temps.
Oui.
Il faut que je prenne du temps. Mmh. Et là, bon, pour ma fille, je lui écris un conte.
Oui, parce que vous êtes aussi conteur.
Voilà.
Vous êtes aussi conteur. On va rajouter des petites pièces au puzzle pendant toute cette émission et peut-être qu'on saura à la fin qui est Georges Mboussi.
Merci.
Donc, dans l'Emba Kalak, donc vous retournez au Congo.
Voilà.
Hein, votre, alors au Congo...
Brazzaville.
Brazzaville, votre pays de naissance. Mais, en fait, on va venir à cette question un peu plus tard.
Oui.
Ce qui est dans ce roman, ce qui est impressionnant, en tout cas moi, ce qui m'a plu dans ce roman, c'est la langue que vous avez utilisée.
Oui.
Vous nous mettez dans la tête de votre héros, Makaya, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et tout au long du livre, vous nous faites entendre sa voix. Soit il pense, soit il parle, mais pendant tout le livre, vous nous faites entendre sa voix. Cette voix-là, c'était important de nous la faire entendre.
Oui. Oui, vraiment, parce que c'est pas l'écho, mais c'est lui-même, en fait, qui est puisé dans les techniques de l'oralité, ou comment il fait corps avec sa voix. Vous savez que dans la forêt, en fait, quand on se promène dans la forêt, par exemple, on est à deux, on se promène, et bien, des fois, on ne se voit pas. Mais il faut se parler. Et il faut se parler, mais en écoutant la voix de l'autre. Donc, la voix est liée à la distance qu'on a dans la forêt quand on se promène. Donc, par rapport à la voix, si vous êtes loin, je sais que vous êtes loin. Et il faut se rapprocher tout le temps de la voix. Et cette voix ramène à soi, donc à ce moi-là intérieur. Mmh. Oui, c'est important qu'on le trouve. Mmh. Hein, on est appelé à ça, quoi, tous.
Mmh. Alors, cette langue-là que vous pratiquez, qui est la langue du Congo. C'est pas n'importe quelle langue, c'est la langue du Congo. C'est-à-dire qu'elle est un peu surprenante pour nous, Français, blancs, avec notre langue académique, nos tournures de phrases. Non, votre Makaya, votre héros, votre personnage principal, lui, il pense dans sa langue. Et quand on le lit, on est surpris par des tournures de phrases, par des expressions dont on n'est pas familier, nous. Et ça, vous avez réussi à nous faire entrer dans la tête de ce personnage grâce à cette langue-là. Et ça m'a fait penser, moi, à un auteur, on en a parlé juste avant l'ouverture de l'émission, un auteur que j'adore, hein, Inkoli Jean Bofane, qui est, lui, de Kinshasa, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Donc de l'autre côté, mais qui écrit, moi j'ai lu un livre de lui qui s'appelle Le Testament de Bismarck, et j'ai réentendu en vous lisant la voix de Jean Bofane.
Oui, intérieur. Oui. Oui, effectivement, moi j'aime beaucoup de lui, c'est mathématiques congolaises. Mm-hmm. Mais magnifique, magnifique. Oui. Comment il utilise cette langue qui... Et pourtant, il parle de la guerre, de cette violence des élections. Mais de l'intérieur, je ne dis pas, une distanciation des faits. Mm-hmm. Oui. C'est ça, cette langue, en fait. On est tellement dedans que... Comment trouver une distanciation et la mettre d'une manière positive ? Oui, c'est ça. Mais vous savez que là, on en parle, mais le Congo, le premier livre, s'il faut dire, le premier livre, c'est Batoila, écrit par René Maron, qui était censuré à l'époque. Hein, à l'époque. Et du coup, cette langue, c'est lui qui l'avait un peu fait sortir en nous, quoi.
Alors ça, c'est le premier contact avec votre livre, c'est ça, c'est cette langue. Tout d'un coup, on sait qu'on n'est pas en France, vraiment. On sait qu'on n'est pas avec des Français, véritablement. Et vous nous sortez de nous-mêmes. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point important, vous, dans le théâtre, a constitué une grande part de votre vie. En fait, vous fabriquez un héros dont le destin lui échappe. On est dans la tragédie.
Voilà. Oui. Je veux répondre d'abord que ce que vous dites, on sait qu'on n'est pas en France.
Oui.
Oui, effectivement. Mais là, c'est la part de l'auteur. Quand j'écrivais...
Comment ça ? Il y a une part de vous dans ce livre ?
Ouais. Non, je veux dire, en écrivant le livre, j'allais au bord de la Loire. Tout le temps, je me promène beaucoup au bord de la Loire et en voyant, en été, les bancs de sable de la Loire, moi, me faisait penser au fleuve Congo. Mm-hmm. Tout le temps, mais même pas penser, mais j'y suis. Quand je suis au bord de la Loire en été, les bancs de sable, je suis au bord du fleuve Congo, quoi. Mm-hmm. C'est ça qui réveille tout le temps, comment dire, le déclic, la lumière, mm-hmm. et de s'oublier. Et pourtant, je suis au bord de la Loire.
Oui. Mm-hmm.
Et La deuxième question, c'est de savoir sur...
C'est une observation, mais mm-hmm. j'aimerais que vous en parliez. Mm-hmm. En fait, vous avez fabriqué un héros dont le destin lui échappe.
Ah, oui.
C'est une tragédie, vous racontez.
Oui, bien sûr. Hein? Parce que c'est vrai que même en tant que comédien, on me dit que je suis un peu racinien. Parce que j'adore tout ce qui est... C'était le classique de Jean Racine, Andromaque, avec des héros comme Pyrrhus, Oreste, la folie d'Oreste.
C'est terrible, un Congolais qui nous parle d'Oreste. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Mais c'est pas possible, ça.
Mais c'est des classiques, hein, c'est des classiques.
Bah oui.
Les mythes, on va puiser là-dedans. Mais ça nous nourrit tous, en fait.
Oui, bien sûr.
Mais ça nourrit tous. C'est là où, quand, en tant qu'écrivain, en ayant un personnage comme Makaya, effectivement, le sculpteur ou celui qui est le potier, et le moule, et donc il faut le fabriquer, il faut lui donner la vie, il faut lui donner le souffle, il faut qu'il agisse, quoi. Mmh.
Alors, quand je dis que le destin lui échappe, c'est que on commence, le livre commence sur une cérémonie traditionnelle,
voilà.
Le lemba.
Le lemba, oui.
Et puis, d'un seul coup, il va se retrouver avec une kalachnikov,
voilà.
Et un marché, oui. Pour... On va y venir, mais un marché. Mais le livre commence sur une cérémonie traditionnelle. Ça nous dit quoi, ce démarrage-là, dans le livre?
Parce qu'il a l'âge, 21 ans, il a l'âge de passer le rite de l'emba. Le lemba, c'est le rite de passage de l'enfance à l'adulte. Mais c'est son jour à lui, c'est la fête, et il y a la cérémonie. Et donc c'est lui qui va effectivement, comment dire, il y a le nganga, il y a tout le monde. Et quand son tour arrive pour prendre le nkampa, et le nkampa donc, c'est cette force qu'on donne à l'initié, et on entend des coups de kalachnikov. Mmh. Alors la cérémonie s'arrête net. Effectivement, c'est la guerre dans le pays. Mm. Et donc, ils s'enfuient avec son père. Et du coup, dans le roman, justement, il sera le héros. Il prendra les armes, comme tout citoyen, ces jeunes qu'on en brigade. Et en prenant les armes pour la guerre, est-ce la guerre? Est-ce que, c'est là la question, est-ce que la guerre aussi est une cérémonie d'initiation à la vie? Voilà, donc il y a les deux initiations, donc traditionnelles, le lemba, et la guerre, pour s'en sortir, et devient aussi une cérémonie d'initiation à la vie.
Alors, il y a ce lemba, vous en avez décrit quelques éléments, mais on a l'impression que ce Makaya, à chaque étape, il ne décide pas ce qu'il fait. Les événements pratiquement décident pour lui. C'est-à-dire qu'il va partir, il va voir sa famille massacrée, il va s'avancer dans la forêt, et il va même réussir à vaincre,
oui. Mmh.
Sans avoir aucune conscience d'avoir vaincu.
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est la vie, mais vous savez, dans là, c'est la vie dans cette forêt équatoriale. C'est le Mayombé, hein. Je suis né dans cette forêt. Vous savez, et puis le fleuve Congo qui est après l'Amazone, hein, c'est le plus grand fleuve du monde. Donc il y a toutes les forces, les pierres, le feu, la nature. C'est cette force-là. Et qui suis-je en tant qu'humain pour aller contre? Finalement, le destin, comme si le destin est tracé. Et il est là, mais il ne faut pas aller contre le destin. Donc, il faut, comme un poisson dans l'eau, il faut suivre le courant. Et lui, il arrive à suivre ce courant-là. Et effectivement, il sera en face de comme on dit, l'ennemi, hein, le mal, la menace. Et c'est lui qui va combattre, qui va gagner d'ailleurs. À la fin, on voit que c'est lui qui gagne. Oui. Mais par contre, ce n'est pas lui qui prendra le pouvoir à la fin.
Oui, oui.
Hein, c'est pas... oui. Je savais que vous allez me le dire. Oui. Ce n'est pas lui qui prendra le pouvoir. C'est ça, oui.
Parce que il va faire partie des vainqueurs, il va gagner. Il va même être reconnu comme le... potentiellement celui qui peut avoir le pouvoir,
avoir le
ce
pouvoir.
Qu'il ne va pas faire.
Oui.
Mais tout ça... comme vous le dites, au gré des événements.
Voilà.
En fait, il ne force rien.
Oui, c'est ça.
Il est dans les événements.
C'est
ça. Et ça, c'est terriblement... moi, je dirais qu'on est dans la tragédie grecque. Hein. On est face à un héros qui ne se sait même pas héros.
Bien sûr, hein? Bien sûr. Mais je ne vais pas reprendre Orestes dans Andromaque, qui revient avec la tête de Dion. Mais voilà, j'ai tué. Est-ce que c'est moi que tu aimes? Non, non. Hermione lui dit non, c'est pas toi. Alors là, c'est ça, en fait. Et lui, il gagne. C'est lui qui, effectivement, en face de ce mal ou Amobi, c'est lui qui gagne. Et du coup, quand il revient à la capitale, c'est à lui qu'on va remettre le pouvoir. Mais finalement, il dit que ce n'est pas à lui de porter cette couronne-là, comme on dit, et il préfère que ça soit sa femme.
Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale.
Thousand roads, twisting and turning wherever you go. How did we get lost this time? So deeply lit, we're dead and bound. For you, I split myself apart. For me.
Le premier titre d'un tout nouveau projet artistique, Split Cake, groupe composé de Mathilda Monique et de Jamie Gallienne. Ils ont interprété Dead and Bound. Vous écoutez Entre les Pages et ce n'est que sur Radio G, fréquence 101.5. Je suis en ce moment même en conversation avec Georges Mboussi qui a écrit L'Mbakala, qui on parle de son roman et de sa vie. J'espère toujours que Mohamed Fakiri va arriver, mais pour l'instant, il n'arrive pas. Donc, nous continuons la conversation avec Georges Mboussi. Au cours de la première partie, nous avons abordé Alors, j'ai mélangé mes feuilles, ce qu'on ne doit pas faire, bien évidemment, mais ça y est, je les ai retrouvées. On a abordé, effectivement, d'une part votre histoire, d'autre part, on a commencé à parler de ce livre, de ce roman, L'Emba Kalash. On a parlé du côté tragique et de la tragédie dans laquelle était inscrite Makaya, le héros. On disait au début, il est dans une cérémonie traditionnelle qui va le faire passer à l'âge adulte,
oui.
une cérémonie initiatique.
Oui.
Et en fait, lui, il fait une double initiation puisque la guerre surgit.
C'est ça.
C'est pas tout à fait la guerre, c'est plutôt une guerre civile.
C'est ça.
C'est ça. Il y a il y a Mayumbi, qui veut le pouvoir.
Oui,
donc il a enlevé le président.
Le président, oui.
Et il est à la tête d'une milice. Alors qui s'appelle les coupés-coupés.
Les
coupés-coupés.
Oui, oui, oui. C'est les coupés-coupés.
Ouais.
Et donc Wamubi, qui est justement qui est à la tête de tout ça. Et après, on se rend compte que c'est le fils bâtard du président.
On a parlé de tragédie. On est au cœur de la question là, hein, vraiment au cœur de la question. Et donc, dans ce roman, il va y avoir une alternance de situations de guerre, de marches dans la forêt, de tirs, de morts, mais aussi d'étapes initiatiques. Ils vont se retrouver dans une grotte où il va falloir confirmer. Les pouvoirs qui m'ont été conférés, qui sont conférés, ça vous tenait à cœur cette intrication à la fois de la tradition et du conflit guerrier moderne ?
Je pense, ça n'engage que moi, que l'Afrique actuelle est liée avec... c'est peut-être le destin, comment effectivement marier... Et la tradition et les croyances qu'on a, qui sont... ces croyances sont encore là, parce que quand on va au Bénin, avec les traditions de vaudou, c'est lié. Et plus les guerres civiles qu'on vit actuellement pour le pouvoir...
Que l'Afrique vit en permanence.
Oui, là on parle du Congo, mais en face du Congo démocratique aujourd'hui, Goma
est attaqué, avec des conflits internes.
Oui,
les conflits sont permanents sur ce territoire-là.
Et tout ça parce qu'il y a des matières premières, c'est comment la terre, donc c'est la terre, les croyances, cette richesse naturelle, effectivement, qui influence l'homme, qui nourrit l'homme, parce que c'est cette énergie-là. Et comment l'homme doit trouver sa place par rapport au conflit, par rapport au pouvoir qui arrive, à l'arme, à la Kalachnikov. Je pense que, il n'y a pas encore de solution, sinon on aurait l'Africain est entre les deux, quoi. Est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va en faire une force? Je m'interroge moi aussi. Est-ce qu'il va lâcher? Il peut lâcher aussi, il peut lâcher, et voilà, ne plus et perdre ses traditions aussi. Bon, est-ce que, donc...
Parce que Makaya, lui, il croit à la tradition.
Oui.
Lui, il croit aux cérémonies initiatiques.
Oui.
Lui, il croit à tout ça. Oui. Ça ne l'empêche pas d'être un homme conscient politiquement, parce que c'est important, cette conscience politique. Il est capable d'évoquer l'ingérence des grandes nations blanches. On parle de la France dans votre roman, on parle des Russes, on parle des États-Unis qui viennent pour piller le pays.
Le pays.
Et Makaya, il a bien conscience que ces ingérences-là sont à l'origine des guerres et des conflits.
Voilà. Et qu'il croit parce qu'il s'élève. Il s'élève et qu'il regarde le ciel. Et puis, c'est comme si tout était écrit. Il sait lire les étoiles, il sait lire.
Oui.
Donc, il a cette vision de l'avenir, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça, à un moment, je me demandais, c'est pour ça peut-être qu'il ne va pas dans la politique tout de suite. Mieux vaut le laisser être le visionnaire qui... est-ce que c'est peut-être qu'il insufflera cette énergie-là, ce souffle pour que le pays avance, quoi.
Moi, je l'ai lu avec mes yeux d'occidentaux, avec mes yeux de français, et Dieu sait si je sais que dans l'histoire de la France, les dégâts qui ont été commis en Afrique. Et moi, j'ai un peu de peine pour ce Makaya, parce que lui croit à la fin du livre que effectivement le peuple va reprendre le pouvoir.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'était important, parce que moi, j'ai senti derrière le Georges Mboussi qui écrit, Lemba Kalash, qui a fait du théâtre, moi, j'ai senti un révolutionnaire chez vous.
Non, l'engagement, disons, c'est même pas révolutionnaire encore. Je suis pas Che Guevara avec...
Eh ben, dans ce roman, moi, j'ai senti le refus de la résignation et l'envie, l'envie de que les choses changent. En fait. Ce Makaya, il a envie que ça change.
Mais merci d'avoir vu ça, parce que je suis de cette jeunesse congolaise qui a, vous savez, par rapport à l'histoire, le Congo s'était tourné à l'est avec l'arrivée des Cubains. Le socialisme, le communisme, cet engagement. J'étais pionnier de la révolution congolaise. Alors Donc, justement, l'écriture ne cache rien.
Non, je crois pas. Je crois qu'il en reste des traces. Enfin, je vais vous le dire, il en reste vraiment des traces.
Des traces, oui. Au plus profond, au plus profond. Mais c'est aussi une manière de voir le monde. Hein. C'est, bon, là, je vous ai dit que je suis avec Jean-Charles Pronon. Je pense que c'est ça, dans ce groupe, qui m'a touché énormément.
Oui. Attendez, rassurez-moi, Jean-Charles Pronon prône pas la révolution à Loire-Authion.
Non, pas du tout.
Parce que faut nous prévenir.
Non, pas du tout. Et non, c'est sa manière de voir le monde. Et pourtant, on est une commune, on peut dire rurale, et en même temps, à des réunions, comment on peut prendre cette distance, c'est de prendre une distanciation à tout ce que vit, en fait. Et effectivement, par l'écriture, moi, par exemple, je m'appuie sur mon vécu, et bon, comme on dit, l'écriture ne cache rien, et ça surgit en tant qu'auteur, quoi. Justement, même en tant qu'artiste.
Oui, bien sûr. Alors, maintenant, vous allez me dire si je n'ai pas tout compris ou si je me trompe. J'ai l'impression que vous avez bouleversé la géographie du Congo. D'abord, sauf si je me trompe, il ne me semble pas que vous disiez que ça se passe au Congo.
Ah, non. Ouais, le roman ne le dit pas.
On ne sait pas où il se passe.
Oui, on ne sait pas où il se passe. Alors, c'est un pays imaginaire, finalement.
Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et moi, très naïvement, quand j'ai un livre comme ça qui parle d'ailleurs, j'essaye d'aller voir les cartes et de me repérer. Et puis, je ne comprends rien. Parce que il y a un moment donné, vous parlez de l'UTT.
Oui, l'UTT.
Mais ça, c'est au Congo, Kinshasa.
L'UTT, comment dire, l'UTT n'est pas la capitale de ce pays, mais l'UTT est d'ailleurs, ce n'est qu'un village.
Oui, c'est un tout petit village,
c'est un
de rien
petit
du
village.
Tout.
Oui,
c'est ça.
Oh là là, vous êtes allé très loin. L'UTT. Mais l'UTT n'est une capitale, mais c'est un petit village perdu.
Perdu. Sur la carte, on ne voit pas.
On ne voit pas, oui. Effectivement, vous savez, ce n'est pas la hantise que j'ai par rapport à l'écriture, parce que aussi j'ai perdu des amis, parce que ils écrivaient. Ben, ça aussi, on est dans un pays où la censure, je suis congolais aussi, d'origine congolaise, que faut prendre une distance, parce que la plume peut amener très très loin. C'est pour ça qu'il faut inventer, en fait. Tout est réinventé.
Parce que de la même manière, l'action se passe où vous citez les plateaux de Mbanza,
oui,
qui sont aussi au Congo, Kinshasa.
Voilà. Oui.
Donc, et moi, alors quand je vois l'UTT, les plateaux de Mbanza, je me dis ça marche pas.
Oui.
Et vous allez jusqu'à y mettre Lambaréné,
oui,
qui
oui,
est au Gabon.
Oui, oui, oui.
Alors, et pourquoi Lambaréné? Dites-moi pourquoi.
Lambaréné, comme je suis né à Dolisie, c'est juste. Personnel, c'est personnel.
Ah ben, ouais. Parce que, je savais que vous étiez dans ce livre.
Je suis né en Dolisie. Donc, comme c'était enclavé à l'époque, donc il y avait une seule route qui allait jusqu'à Lambaréné. Mm-hmm. Et pour moi, c'était resté l'imaginaire. Que la voie ferrée, c'était difficile à prendre. Mais quand je voyais arriver ces camions qui s'appelaient des camions de barbiers, hein, qui arrivait et qui venait de Lambaréné, c'est resté d'une manière mythique et imaginaire dans moi. Donc partir, c'est aller à Lambaréné. Il n'y avait que ça.
Mmh. Parce que pour moi, Lambaréné, c'est plus... J'ai fait plus court, moi. Pour moi, Lambaréné, c'est la ville d'Albert Schweitzer.
Oui, c'est ça. Ouais, bah,
c'est là où il a fondé son hôpital.
Au Gabon.
Donc moi, je me dis, mais là, je suis perdu. Là, il me perd dans sa géographie. Il invente un pays qui n'est pas le Congo et dans lequel il met toute l'Afrique d'un seul coup.
Et Lambaréné, si tu veux partir, il n'y a que ce lieu qui est Lambaréné. Oui. On part à Lambaréné.
D'accord.
Et donc, s'il y a un mâle qui vient, ça ne viendra que de Lambaréné, ça ne viendra pas d'ailleurs. Parce qu'on est dans la forêt.
Alors, ce livre, vous le placez aussi à l'ombre d'un très grand auteur, Sonny Labou-Tanzi,
voilà,
homme de théâtre. Mm-hmm. On y revient au théâtre, hein, mm-hmm, poète et romancier congolais. Mm-hmm. Dites-nous quelques mots sur Sonny Labou-Tanzi.
Sonny Labou-Tanzi, c'est un ami, c'était un ami, c'est un ami d'écriture, oui. J'ai travaillé avec lui au théâtre, dans la troupe Les Rocados ou le théâtre. Et donc, on était très, très, très des frères. Des frères, il arrivait même quand il écrivait ses manuscrits, il me les faisait lire. Il me dire « Qu'est-ce que t'en penses, Georges ?» Effectivement, j'ai noté quelques traits, il prenait compte, il ne prenait pas compte, mais quand même, il s'attachait à ça. Et puis, on a écrit des textes de théâtre ensemble aussi. Mais c'est du théâtre que Lanzmann a édité. Et j'étais très, très, très proche de lui. Et puis, j'ai joué beaucoup aussi ces textes. Que j'ai beaucoup joué au Bénin, au festival de FITEB, que je joue jusqu'à présent, d'ailleurs, avec mon ami Toubous Bébé, qui est un musicien, qui m'accompagne.
Toubous Bébé, magnifique musicien, extraordinaire musicien.
Voilà.
Ah, oui. Saxophoniste brillant.
Oui, qui m'accompagne. Mm-hmm. On joue Les Temps Honteux, le texte qu'on a adapté, des textes de Sonny Labou-Tanzi.
Alors, vous disiez tout à l'heure que l'écriture, ça pouvait être dangereux, et donc vous avez fabriqué un pays imaginaire qui vous éloigne un petit peu, qui vous met un peu en sécurité. Mais pour dire juste un petit fait qui concerne Sonny Labou-Tanzi, il est mort du sida. Mmh. Et il est mort du sida, mais il n'a pas pu venir se soigner en France parce que le pays lui a interdit de sortir. Et sa femme est morte du sida quelques mois après. Enfin, bon, c'est une histoire terrible. C'est un auteur intempestif. Hein. Il n'était pas conciliant. Il était extrêmement déterminé sur son écriture. Et de voir son nom sur la page de garde de votre livre, je me suis dit, ah, c'est quand même bien de pouvoir rendre hommage comme ça à des auteurs qu'on connaît moins, que nous connaissons moins.
Bien sûr, oui. Et il est, justement, c'est là où, comme on a dit, les pays peuvent aussi influencer le destin de quelqu'un. Eh bien, il était malade, et on savait bien qu'il était malade. Mmh. Mais pour se soigner, il fallait qu'il vienne en France. Mmh. Mais le pays avait décidé de ne pas lui remettre son passeport. Mmh. Donc, il ne pouvait plus sortir. Ouais. Et il voyait comment il se dégradait. Vous voyez, là, parce que il était rude, dur par rapport à l'état du pays.
Oui, ces textes sont pas très, c'est pas de l'eau tiède, quoi.
Non, non.
Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale.
Merci beaucoup.
Sister, sister, tell me, do, tell me now, what is this world to you? You've sewed those jeans a thousand times, a thousand times a day. And the man who takes the orders, he doesn't want to pay. They say a war is raging to keep the prices down. They're fighting for your pocket, baby, in every store in town. Bonfire of vanities, I'll meet you where it burns. Bonfire of vanities, don't forget to bring your purse. Child upon my shoulder, another by my hand. We're waiting on the boat that takes you to the promised land. Bombs are raining, raining on our homes. They don't give a monkey's if you're young or if you're old. They say a war is raging, they want to make it clean. They want to take the bad guys out and be home in time for tea. Bonfire of vanities, I'll meet you where it burns. Bonfire of vanities, don't forget to bring your purse.
Encore une voix étrangère qui s'est posée au bord de la Loire, celle de McCaffrey, l'Irlandais. Ce titre, Bonfire of Vanities, est extrait de son tout nouvel EP, Burning House. Et pour ceux qui auront prêté une oreille attentive à ce très beau titre, ils ont sans doute entendu des accents à la Sixto Rodriguez. Le violon, ce violon qu'on entend, il nous fait aussi penser au violon de Warren Ellis des Bad Seeds. Mais vous êtes toujours sur Radio G, vous écoutez toujours Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Et aujourd'hui, j'accueille Georges Mboussi, auteur de Lemba Kalash. J'accueille aussi Mohamed Fakiri, mais vraiment qui n'arrivera pas à se désembourber du sentier dans lequel il s'était embarqué. Je l'inviterai une prochaine fois, c'est pas grave. On vient de vous entendre, Georges Mboussi.
Oui.
Vous êtes, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous êtes installé au bord de la Loire. Vous avez planté vos racines.
Oui.
Vous avez replanté vos racines au bord de la Loire, du côté de la Daguenière. Tout d'abord, comment quelqu'un qui vient du Congo pose ses valises à la Daguenière?
Oui, c'est un long parcours, mais je pense que là aussi c'est le, que comme si on est attiré par une force, par quelque chose. Je venais beaucoup travailler ici en Pays de la Loire. Et à un moment, puisque je venais souvent de Paris, hein, de la région parisienne, quand ma fille était née, elle toussait toutes les nuits et tout. Mais le médecin qui suivait ma fille, m'avait dit, mais non, écoutez, puisque je vivais à Pontoise, il m'avait dit, Pontoise est polluée. Si vous voulez que ça change, j'ai essayé de déménager.
Et donc, il vous a dit, allez à la Daguenière.
Et comme je venais souvent sur Angers, j'ai dit à mon épouse qui est enseignante, mais on va essayer d'aller à Angers. J'ai dit, mais il faut qu'on... Vous savez, avec l'enseignement, c'est pas facile. Mais non, elle a demandé sa mutation et c'était... Ça fait marcher. On est arrivé à Angers et puis on est arrivé maintenant à la Daguenière. Mais la chose, là je parle de la Loire parce que je suis un fils du fleuve Congo.
Oui.
Effectivement, en allant me promener au bord de la Loire avec les bancs de sable, j'étais reparti dans le village au café. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui est troublant, mais je me croyais au Congo. Mmh. Ah, il s'appelait Bernard qui tenait le bar. Il dit, oh ben oui, Georges, mais il faut qu'on fasse une fête africaine au bord de la Loire.
Et il y a eu cette fête africaine.
Maintenant, tous les deux ans, au bord de la Loire, et tout le monde se retrouve. Et c'est une fête des gens du village, quoi. Ce n'est plus une fête de Georges, parce que... Et non, bah, peut-être c'est ça. C'est comme vous dites, on dirait que le destin, on crée les déclics des gens. Et oui, comme c'est... Le dernier week-end, donc le premier week-end de juillet, les gens de la Daguenière attendent souvent la fête avant de partir en vacances. Ah, d'abord la fête africaine et puis on part.
Après, on part en vacances.
Mais on a invité des gens comme Emmanuel Dongala.
Oui.
Hein, des écrivains comme Emmanuel Dongala. Dernièrement, des hommes de théâtre aussi sont venus. Les Punta Negra sont venus. Il y a pas mal de musiciens qui sont venus. Il y a pas mal d'auteurs aussi de la francophonie qui sont passés par la Daguenière.
Alors, ce livre, Lemba Kalage, vous avez mis combien de temps à l'écrire?
Je peux dire 8, en gros 9 ans. 9 ans,
9
vraiment.
Ans.
Ouais, avant de trouver un éditeur.
Ouais. Hein,
ce qui n'est pas facile non plus.
On va en parler de votre éditeur. Mmh. Je ne vous cache pas qu'on va en parler. L'écriture, c'est difficile.
Oui. Je pense que surtout ce livre,
oui.
Peut-être que je prendrai d'autres voies, hein, de comment écrire. Parce que au départ, comme je dis, c'était le personnage central. Je voulais que ce soit ma mère, mais j'ai jamais réussi à prendre une distance. Et puis après, il a fallu tout reprendre à zéro et tout. Là, j'ai choisi Makaya, qui est un jeune homme qui va faire ce parcours initiatique, et la tradition, et le monde moderne. Et finalement aussi, il a fallu tout effacer et bien étoffer la partie, parce que, je ne le cache pas, j'avais fait lire le manuscrit à un ami qui est justement Philippe Pronot, qui m'avait dit, mais oui, parce que la tradition n'apparaissait pas beaucoup dans... Quand j'avais fait lire ce manuscrit, il m'a dit non, mais on a besoin de ça, en fait. Oui, j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Et puis, à part la tradition, c'est aussi comment dire, parce que le personnage dit « je ».
Oui. Hein,
le « je » se confond avec le « je » de l'écrivain.
Moi, je l'ai senti, ça. Moi, je le dis, hein, je ne vous connaissais pas du tout. Je vous ai connu par ce livre-là. J'ai fait après mes propres recherches, mais je ne vous connaissais pas du tout. Mais il m'a semblé, en lisant ce livre, que vous étiez derrière. On sent votre... On sent que vous êtes derrière ce livre, véritablement. 9 ans, c'est long. Est-ce qu'il y a des moments où on regrette de s'être lancé dans l'écriture d'un roman?
Oui, deux fois, ouais, deux fois. C'est pas évident non plus, hein, parce que on est à nu. Je vous cache pas, hein, surtout dans les macalages quand on est à nu. Et puis on est pudique aussi. Je suis au Congo,
oui.
Une partie de, ah là là, on est là. Est-ce qu'on trahit une partie de soi? Est-ce qu'on trahit soi-même? Est-ce que, mais bon, après il faut prendre une distance.
Cette question, vous vous l'êtes posé, la question de la trahison, vous êtes posé cette question-là?
Pas directement, mais il y a eu un moment, après tout, comme vous avez dit, il y a la partie quand même, le modernisme, il y a la France, il y a la Russie qui intervient. Ouh, maintenant que je fais de la politique aussi, je me suis dit... Et puis, il y a aussi le côté... Les personnages, par exemple, Wamubi, qui est le fils bâtard du président de la République, qui est un dictateur. Donc là aussi, c'est vraiment un terrain glissant pour ces pays-là. Quoi.
Bien sûr.
Mais il faut des gens pour le dire. Il faut gens pour le dénoncer. Sinon, on continuera à subir ce qu'on subit actuellement à Goma. Quoi.
Alors... ce que j'aime dans, vous, dans ce que vous dites là à l'instant, c'est « on continuera à subir ». C'est comme si vous étiez encore là-bas, alors que vous êtes à la Daguenière. Donc,
oui.
C'est quand même une part de vous là-bas.
Oui, mais parce que, quoi qu'on dise, regardez les informations sur Goma, par exemple. Mais les jeunes m'ont écrit dans les médias. « Ah, vous voyez, grand frère, ce que vous faites !» C'est moi maintenant le l'occidental qui et non mais ils ont brûlé les ambassades. Ah, on a brûlé votre ambassade, mais l'ambassade de qui? De la France. On a brûlé, on a brûlé. Oh là là là, c'est comme si il faudrait que il faut participer à, bon, qu'on trouve du côté gagnant-gagnant, qu'on équilibre les choses, qu'on se parle, non de passer par la violence, quoi. J'irai plus loin, hein, même le dernier discours sur l'Afrique, sur les Africains de M. Macron, hein, il était quand même dur. Il était dur, ils m'ont dit, voici ce que a dit ton président. Oui, parce que je suis ici. Et donc, moi je suis le yaya, comme on dit maintenant. Le yaya, mais c'est dur de porter la casquette de yaya, hein, parce que c'est eux qui subissent finalement. Un mot ici, là-bas, c'est une guerre, quoi.
Ben oui, c'est ce qu'on a tendance à négliger, mais je le regrette, Georges Mboussi, mais nous sommes les Blancs. Je suis désolé pour vous, mais nous sommes les Blancs.
On ne se rend pas compte que... et je suis devenu Blanc. Pour eux, je suis devenu blanc. Pour eux, je suis un blanc là-bas maintenant.
Va falloir qu'ils se décident à mieux vous regarder. moi, j'arrive toujours pas à me voir comme un blanc.
Donc, c'est cette trahison, mais est-ce que c'est pour... Oui, mais on se rend pas compte la force aussi d'être de ça. On se rend pas compte. On préfère piller, vandalisme. Mais pourquoi pas gagner du gagnant-gagnant, faire du gagnant-gagnant? Mais en plus, nous gagnerons.
Oui, bien
gagnerons.
Bien sûr, bien sûr.
Si aujourd'hui, l'Afrique francophone, aujourd'hui, si l'Afrique francophone se développe, c'est la France qui va gagner par rapport à la langue, par exemple.
On pourrait
la francophonie,
bien sûr.
On a gagné énormément, par la langue, par l'écriture, par... la culture, l'industrie culturelle et tout, mais on préfère...
Alors, l'industrie culturelle, vous avez bien compris qu'en région de Péry de la Loire, c'était plus compliqué. Hein.
Ah, voilà. Et alors, mais je ne sais pas pourquoi on touche à la culture.
Alors, on va aborder le dernier point de cette conversation. J'y tiens, je vous ai prévenu, je vous ai dit qu'on en parlerait et je veux à tout prix en parler. Vous avez écrit un livre et il a fallu trouver un éditeur.
C'est ça.
Hein? Alors, votre éditeur, c'est les éditions de Londres. Je dis leur nom, voilà, je dis leur nom, j'espère qu'ils écoutent. Non, ils n'écoutent pas, mais ce n'est pas grave. Alors, les éditions de Londres, ils se présentent comme ça. Nous sommes une maison d'édition indépendante, fondée en 2006. Nous avons voulu mettre nos compétences dans le domaine éditorial au service des auteurs, débutants ou confirmés. Nous concevons la couverture, nous procédons à la correction typographique et orthographique du texte, nous construisons la maquette de l'ouvrage et nous la faisons imprimer. L'auteur est associé à chacune de ces étapes. Aucun jalon n'est franchi sans qu'il donne son avis. Alors, l'auteur prend financièrement en charge une part de la réalisation. En contrepartie, il bénéficie d'une approche qualitative dans l'édition et la diffusion de son ouvrage, de la correction du texte à la diffusion en librairie. Je m'arrête là. Moi, je voudrais dire, Georges Mboussi, que les éditions de Londres ont massacré votre livre.
Ah.
Elles n'ont pas fait de correction.
Ah.
Elles n'ont pas fait de mise en page. Alors que ce livre, logiquement, moi, ces livres-là, je ne peux pas recevoir les auteurs quand il y a trop de fautes, quand il y a... Voilà. Mais vous m'avez piégé avec votre langue. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Je ne peux pas ne pas inviter quelqu'un qui écrit aussi bien. Cependant, les éditions de Londres n'ont pas fait leur travail, le travail qu'elles vous ont promis, qu'elles vous ont fait payer d'ailleurs. Hein. En édition, généralement, un auteur, il ne paye pas. Hein. Enfin, ça, c'est une règle. Il ne paye pas. Et donc, je trouve que ça serait pour... j'ai envie de prévenir un peu les auteurs en disant, quand vous cherchez un éditeur, que l'éditeur vous répond tout de suite et qu'en moins de 3 mois, votre livre devrait être imprimé, c'est qu'il n'a pas fait son travail. Et c'est vraiment dommage, enfin, c'est vraiment regrettable. Je le dis pour les gens qui, en vous écoutant, diraient, mais j'ai envie de lire ce livre et le liraient. Ils diraient, mais qu'est-ce qui se passe? C'est aussi une manière d'avertissement en disant, dépassez, dépassez ces problèmes-là d'édition, parce qu'il faut aller au bout du livre et ils feront un voyage, vraiment un voyage magnifique.
C'est vrai que c'est pas évident, c'est un parcours du combattant. Hein.
Oui, mais je...
Vrai parcours. Hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. Georges Mboussi, je vous remercie d'être venu jusqu'à Radio G. Moi, je suis ravi de vous avoir...
Merci,
avoir rencontré.
Merci tout le monde.
L'horloge indique que l'émission va se terminer. Donc, d'abord, je vais passer quelques informations. Du 31 janvier au 14 février se tient important le Festival du Conte et des Arts du Récit à Légaren-sur-Loire. L'ouverture, c'est après-demain, le 31 janvier à 20h et c'est avec l'ami Titi Robin. Il y fera une lecture musicale et j'insiste pour que, si vous êtes intéressé, que vous lisiez les textes, les recueils de poèmes de Titi Robin. Il a une écriture vraiment magnifique, à la hauteur de la musique qu'il fait. Le 6 février à 20h au Musée des Beaux-Arts d'Angers, en partenariat avec l'ami L49, Valérie Rouzeau, avec un des médiateurs du musée, mettra en œuvre une des œuvres du musée. Du 7 au 16 février, ce sont les entretiens de la collégiale. À la collégiale Saint-Martin, comme ce rendez-vous vous y habituez, nous y a habitués, il y a pléthore d'invités de marque. Et le mardi 11 février, à 19h, la librairie Contact à Angers reçoit Gaëlle Josse, l'autrice du très recommandable « Le dernier gardien d'Ellis Island ». Et rien que pour ce premier livre, qui est vraiment magnifique, ça vaut certainement le coup d'aller écouter Gaëlle Josse. Au cours de l'émission, vous avez entendu Split Cake qui a chanté Dead and Bound et le trio de McCaffrey qui a chanté Bonfire Vanities. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 12 février à 17h. Je diffuserai la rencontre avec Sébastien Berlandis que j'aurai animé le 6 février à 19h à la maison Julien Gracq. C'est en public. Et vous y êtes tous et toutes invités. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis votre rendez-vous quotidien avec le magazine Topette animé par Pierre Benoît. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight and then go straight.
Générique.